Vous êtes sur la zone payante. C'est maintenant l'heure de la des questions des auditeurs. Beaucoup de questions cette semaine. Merci de vos questions. On va commencer à tout seigneur, tout honneur, avec la retraite de Tom Brady. Jérôme qui nous pose la question. Bonjour à vous deux. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de la carrière de Tom Brady?
Merci. Ouais, là,
des bons balados.
Il y en aurait pas mal, hein, des bons et des mauvais souvenirs. Moi, vite comme ça, je te dirais le meilleur, ça n'a pas le choix d'être le Super Bowl contre les Falcons. Encore une fois, partisan ou pas, tu sais, la remontée de, c'était quoi, c'était 28-3 au troisième quart. C'est des choses, ça, tu devrais enseigner ça aux jeunes, la détermination, leur montrer ces vidéos-là, tu sais. Peu importe là, que tu es fan des Pats, c'était grandiose, honnêtement, comme match, de le voir remonter ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de Tom Brady ou de fans des Patriots qui vont dire, en bout de ligne, que c'est le moment qui a peut-être défini qui est Tom Brady, c'est quoi sa carrière. En tout cas, pour moi, c'est ça. Puis le pire, ben je sais pas, toi, ce que tu verrais, là, il y en aurait quelques-uns, là, mais moi, c'est le Super Bowl perdu, je te dirais. Celui qui aurait dû gagner, c'est l'année 2007 avec Randy Moss. C'était une attaque complètement inarrêtable. Il battait tout le monde. Ah, regarde, il battait tout le monde. Rappelle-toi des scores. C'était même fâchant des fois parce qu'on se disait, il mène 42-0 puis il continue à passer comme des sauvages au quatrième quart. C'était une attaque assassine. Bill Belichick avait pas de pitié. Brady non plus. Ça, là, c'est comme une tâche, pas au dossier de Brady, mais au dossier des Patriots plus, là. Mais honnêtement, cette saison-là, saison invaincue, il arrive contre les Giants au Super Bowl, puis il s'écrase. Honnêtement, ça, c'est probablement le pire, là, en ce qui me concerne.
Moi, c'était formidable, mais on en reparlera peut-être.
Toi, c'est ton meilleur, ça. Hein, c'est
ça. Ben, moi, non, mais moi, mon meilleur souvenir, c'est sûr que moi, je suis pas un partisan de Tom Brady, mais la fois où j'étais le plus heureux, c'est quand, après plusieurs années, plusieurs rumeurs que les Pats faisaient toutes sortes de stratagèmes pour gagner des matchs. Des fois, ils se faisaient prendre, des fois, ils se faisaient pas prendre. Mais mon meilleur souvenir, c'est quand même quand Tom Brady s'est fait suspendre pour avoir dessoufflé les ballons intentionnellement pour que ses receveurs aient plus de facilité à l'attraper. Puis c'est là que Tom Brady a commencé à avoir son lustre un peu abîmé, là, tu sais. Fait que pour moi, mon meilleur souvenir, c'est quand il était suspendu pour avoir triché.
Le lustre n'a pas été abîmé longtemps parce qu'après ça, il s'est mis à regagner, puis à regagner, puis à regagner des Super Bowls.
Fait que... Oui, mais là, on ne sait pas s'il a triché, là, parce que là, cette fois-ci, il s'est fait prendre, là, mais les autres fois, on ne le sait pas, là. Parce que rappelez-vous, quand il filmait les signaux des autres équipes, quand il filmait les pratiques des autres équipes, fait que... Il y a quand même, disons qu'il y a une grosse histoire. Je comprends que son œuvre est plus grande que ça, mais il reste qu'il y a toujours cette tâche autour de Tom Brady quand il était suspendu pour tricherie. Puis mon pire souvenir de la carrière de Tom Brady, mais on souhaite jamais ça arriver à tout le monde, c'est quand même l'année où il s'est blessé. Là, tu sais, là, premier match de la saison, grosse blessure au genou en 2008.
Ouais, c'est vrai ça.
Alors que, tu sais, plusieurs... Tu sais, voyait là, peut-être la carrière de Tom Brady terminée. Puis c'est une année où ils ont pas fait les séries. Puis les Dolphins avaient fini premier de la saison. Puis moi, étant partisan des Dolphins, j'aurais aimé voir Tom Brady dans l'alignement pour voir si les Dolphins avaient pu aussi aller chercher la première place malgré la blessure de Tom Brady.
Les Pats avaient fini 11-5 cette année-là. Ouais. Ils n'avaient pas fait les séries, mais on s'entend qu'à 11-5, c'était un peu une anomalie. C'était Matt Cassel, le corps arrière. J'ose pas imaginer il aurait fini combien avec Tom Brady.
Ah, ben c'est ça. Peut-être que ça aurait été le même résultat. Peut-être pas. On ne saura jamais. Alors voilà pour nos souvenirs de Tom Brady, en espérant qu'on n'aura pas l'année prochaine à refaire une émission en parlant de nos souvenirs parce qu'il vient d'annoncer sa retraite.
Ouais, ça se peut.
Olivier nous pose la question. Je n'ai pas compris lors du quatrième quart. Oh, attendez un petit peu, par exemple. Voilà.
Oui, le sifflet était de mise.
Olivier, donc, je n'ai pas compris lors du quatrième quart entre les Chiefs et les Bengals quand les Chiefs étaient au quatrième essai que les arbitres ont pris la décision de revenir au troisième essai et d'ajouter du temps au cadran. Alors, ma question, pourquoi les arbitres ont pris cette décision?
Écoute, on n'a pas compris personne. Ça a été très, très bizarre comme moment. Ce qu'ils ont expliqué par après, les arbitres, tu sais, je suis allé voir les explications parce qu'il y a toujours un seul reporter désigné avant une rencontre qui a le droit, après un match, d'aller poser, genre, je pense que c'est 3 questions à un officiel en chef. Donc, les officiels, en passant, confrontent jamais les médias là, après un match. Là. Donc, ça s'est limité à ça. Lui, ce qu'a expliqué l'arbitre, c'est il a dit le jeu précédent, c'était une passe incomplète. On a spoté le ballon au sol pour reprendre le jeu suivant, mais le juge de ligne, lui, a décidé que c'était pas le bon spot, donc il a bougé le ballon de nouveau. Donc, ils ont été obligés de demander de repartir ce qu'on appelle le play clock.
L'horloge.
Ouais. L'horloge du jeu. Pas l'horloge du match, là, mais le play clock. Là. Tu sais, quand il y a 25 secondes.
C'est ça. Puis là, mais tu le remets à 25. Là.
C'est celui du match qui est reparti par erreur. Donc, les arbitres ont essayé de se dépêcher à dire non, là, le cadran de match doit pas repartir. C'est une passe incomplète. Le temps est arrêté. Il y en a un, semble-t-il, qui a tenté d'arrêter le jeu. Il a pas réussi. Donc, le jeu s'est joué. Personne n'a entendu que le jeu devait arrêter. Puis après ça, bon, on a annulé le jeu, mais on l'a repris. Mais c'est un peu bizarre. Normalement, les sifflets se font entendre, puis les arbitres arrivent au milieu du jeu. Puis, ça n'a pas été établi clairement. Puis, ça a fait très, très mal paraître la Ligue là-dessus.
2 questions sur le Pro Bowl. On va commencer par celle de Tommy, qui dit « Je ne sais pas si les exercices du concours d'habileté ont été publiés. Si oui, lequel vous attendez le plus et lequel aimeriez-vous voir? »
Ouf, le Pro Bowl, là, je me suis beaucoup désintéressé de ça dans les dernières années. Là, il y a une nouvelle formule cette année, il n'y a plus de match, on parle de concours d'habileté. J'ai pas vu tout ce qui était les concours comme tels cette année. Moi, ce que je me souviens dans le temps à l'époque qui m'intéressait, c'était tout ce qui impliquait les corps arrière, mettons, qui lance le plus loin ou viser des cibles en mouvement. Tu sais, je trouvais que c'était des éléments le fun à voir, là, tu sais, au moins c'est divertissant. Mais ce qu'il faudrait qu'ils ramènent par-dessus tout, là, c'était les fameux sprints. Ça, c'était le fun de savoir qui est l'homme le plus rapide de la NFL. Ça, c'était toujours intéressant. Mais ce qui arrive aussi, là, c'est, tu sais, je me dis, c'est même plus les meilleurs joueurs qui sont là au Pro Bowl. Tu sais, la plupart skip, soit qui ont des blessures, soit qui sont en série puis ils décident de pas y aller. Soit que ça les tente tout simplement pas, ils veulent se reposer, ils ont eu une saison longue et difficile. Donc, on se retrouve avec des Tyler Huntley au Pro Bowl. Ça, là, c'est une joke. C'est pitoyable.
Quoi, cette année, là?
Oui.
Mais non.
Écoute, ils ont remplacé Josh Allen, crois-moi, crois-moi pas, par Tyler Huntley, le réserviste des Ravens. On est rendu là au Pro Bowl, là. Tu sais, pour moi, ça nous démontre à quel point c'est plus important. Moi, je surveille qui est les All-Pro, qui est sur la première équipe d'étoiles, la deuxième équipe d'étoiles. Ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que tu dis, tel gars a été dans sa vie 6 fois au Pro Bowl, ouais, mais Tyler Huntley va être allé au Pro Bowl.
Bon, mais ça m'amène à l'autre question de Sébastien. J'aurais une question pour la zone payante. Est-ce que la NFL ne devrait pas laisser tomber le Pro Bowl?
Oui. Tout simplement, moi, écoute, à part s'ils revivent ça d'une quelconque façon, là, c'est les Manning qui s'occupent des concours d'habileté, tu sais, on va leur laisser une chance. Mais à la base, si tes vedettes se présentent pas, moi, je vois pas d'utilité à ça à part de donner un gros party à des gars qui le méritent pas nécessairement.
Il n'y a pas rien que les playoffs dans la vie, Mathieu nous dit. Merci pour votre podcast. 2 questions. Bon, il se garde. On va y aller à petits pas. On va commencer par la première. Les Jets se retrouvent devant un dilemme. Se lancer avec un QB d'expérience ou réessayer via le repêchage encore une fois. Avec leur alignement actuel, pensez-vous que ce serait la bonne décision?
Oui. Moi, c'est un faut qu'ils aillent avec un vétéran. Là. Ça a assez niaisé. Puis, ils ont une équipe, sans parler d'une équipe à maturité, parce qu'il y a encore beaucoup de jeunesse là, chez les Jets. Mais c'est une équipe qui est prête à compétitionner, qui est prête à passer au prochain niveau, puis tu sais pas assez ce que Zach Wilson va te donner. C'est très, très, très shaky jusqu'à maintenant. Là. On n'est pas convaincu loin de là. Puis je pense que les Jets sont rendus à un niveau où faut que tu saches là, qu'est-ce que tu as vraiment dans le ventre comme équipe avec un vrai corps arrière qui peut se débrouiller. Là. Est-ce que ça va être Aaron Rodgers? Je sais pas, tu sais, ils viennent d'embaucher Nathaniel Hackett comme coordonnateur à l'attaque.
disons que les médias à New York font des gros push pour que ils soient considérés, mettons.
Pour ceux qui savent pas c'est quoi le lien à Kate Rogers, ben il était coordonnateur à l'attaque des Packers, évidemment, avant d'aller s'écraser comme entraîneur-chef des Broncos. Mais il reste respecté comme coordonnateur à l'attaque. Rogers a une bonne entente avec lui. Est-ce que c'est ça qui pourrait l'amener à New York? On verra bien. Mais chose certaine, là, je pense que les Jets sont mûrs pour essayer d'aller vers un vétéran encore qui n'ont pas besoin de développer par-dessus développer. Là.
Et la deuxième question, on va faire un bis pour Mathieu. Malgré le fiasco Zach Wilson, pensez-vous que l'équipe pourrait envisager de le garder comme carrière substitut pour essayer de le développer et lui donner une dernière chance?
Ben, en ce moment, pourquoi pas? Parce qu'il coûte pas cher. T'sais, il est encore sur son contrat recrue. Moi, pour l'instant, je vois pas de problème à le garder. C'est juste que tu y fais pas de promesses. T'essaies de dire qu'écoute, il va falloir qu'ils apprennent du vétéran qu'ils vont amener. Tant mieux si le vétéran en question peut l'aider. Là, je suis pas sûr qu'Aaron Rodgers va être le...
Ouais, le mentor parfait.
Le grand mentor parfait, idéal pour ça, là, tu sais. Mais en tout cas, on verra. Mais pour l'instant, question financièrement, là, c'est un bon move de garder Zach Wilson puis de dire, sait-on jamais tout à coup qu'il y a la grande illumination puis qu'il est encore avec nous, ben pourquoi pas.
Réjean nous dit il y a plusieurs bons coachs dans la ligue actuellement, mais croyez-vous qu'Andy Reid est le meilleur stratège offensif de la ligue comme entraîneur-chef?
Ben, il y en a quelques bons, mais pour moi, là, je pense qu'il a prouvé hors de tout doute cette année que oui. Écoute, l'attaque des Chiefs qui a été métamorphosée là, par rapport aux dernières années, t'as plus Tyreek Hill, il y a une couple de receveurs qui sont partis aussi. Les Chiefs, depuis 2 ans, qui ont complètement transformé leur ligne à l'attaque. T'sais, il y a eu beaucoup de changements à Kansas City, mais la constante là-dedans, c'est Mahomes et Andy Reid. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est sûr, ils jouent avec Andy Reid, avec Mahomes, ça l'aide à bien paraître, oui. Mais tu sais, Andy Reid, toute sa carrière, tu regardes, il s'est adapté à différents styles, puis il a tout fait fonctionner. Tu sais, Alex Smith a eu des très bonnes années avec Andy Reid à Kansas City. Donovan McNabb, c'est un style complètement différent. Là, tu as Patrick Mahomes. Tu sais, je pense qu'il a fait ses preuves, Andy Reid. Puis en ce moment, moi, je vois pas qui... Si tu es un coordonnateur défensif, quel coach tu crains plus d'affronter que Andy Reid?
Simon nous pose la question. Jean-Nicolas et Stéphane, d'un point de vue personnel, quel match du Super Bowl vous a fourni le plus d'émotions fortes? Vas-y donc, toi.
c'est drôle, ça. Mais
c'est lui où les Vikings étaient, d'après moi, toi, non?
non, lui où les Vikings étaient, j'étais pas né.
Moi non plus.
Il y a été 4 fois, puis j'étais pas né les 4 fois. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Moi, c'est drôle, là. Je veux juste raconter une anecdote. C'est le Super Bowl 47 entre les Ravens et les Niners. C'était en Nouvelle-Orléans. Premièrement, c'est la première et seule fois que je suis allé là. De toute beauté, ça. Ceux qui ont la chance d'aller voir ça, là, Nouvelle-Orléans, c'est assez unique comme ville. Mais surtout, point de vue personnel, parce que je couvrais le Super Bowl pour le journal, puis il y a eu une panne de courant de 37 minutes.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Ça, quand tu as une heure de tomber pour remettre tes articles de match et d'après-match, tu paniques pas à peu près. Là. Le monde trouve ça bien rigolo. Là. Ça fait des jokes à la panne de courant. Puis toi, tu essaies de négocier avec tes boss pour avoir une extension. Puis on te dit non, on peut pas, là, les presses partent à telle heure, donc go, faut que tu nous livres ça. Puis écoute, c'est complètement déstabilisant comme expérience. Il faut que tu livres ton matériel dans des conditions pas possibles. Fait que, parlant d'émotions fortes, là, puisque je me réfère à la question de Simon, ben ça, c'était des émotions fortes, pas à peu près en couvrant un match, là, je vais te dire.
Mais moi, on dirait que c'est sûr que mon souvenir le plus clair d'un Super Bowl où j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions, c'est le fameux Super Bowl où les Giants et le helmet catch.
David Tyree.
Exact, la passe de Eli Manning à David Tyree, parce que cette fois-là, j'étais à Paris et je regardais le match dans une chambre d'hôtel avec des amis, puis écoute, là, je pense qu'il était, je sais pas, rendu 4h du matin, 5h du matin. Là. Puis on hurlait dans la chambre d'hôtel. Et on avait passé proche de se faire expulser de l'hôtel de Paris parce qu'on n'était pas capable de contenir nos émotions. On savait qu'il était tard, mais c'était trop d'émotions. Là.
Une gang d'amis d'une chambre d'hôtel à Paris, habituellement, c'est gros comme un dé à coude.
En plus, c'est ça. Là. Puis les murs sont en carton. Là. Fait que c'était là, vraiment un match là, d'abord dont la fin, la route vers la finale avait été incroyable.
Ouais.
Et on n'était pas non plus des partisans des Pats, donc ça ajoutait à notre plaisir. Mais l'autre Super Bowl aussi qui me donne encore des émotions aujourd'hui. Puis je suis pas capable de regarder la fin. Là. Je détourne le regard. Là. C'est une fin qui est trop crève-cœur pour moi. Là. C'est le Super Bowl en 2015. Je me souviens plus le numéro. Lors de l'interception, la passe de Russell Wilson qui a été interceptée dans la zone début par Butler, alors qu'on avait décidé de pas donner le ballon à Marshawn.
Ouais.
Je te dis, là, je criais à la télé. Puis là, quand tu vois Marshawn en plus partir en motion, là, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils font? Puis c'est écrit dans le ciel qu'elle allait se faire intercepter. Puis encore aujourd'hui, je suis pas capable de revoir la reprise de cette fin de match-là qui avait donné la victoire aux Pats, c'est le Super Bowl.
Ah oui, c'était un grand Super Bowl, ça. Honnêtement, le match avait été fantastique.
Oui. Kevin nous pose la question, devrait-on continuer le calendrier de la pré-saison au lieu de l'augmenter et tenter une approche 2-3 en play-off entre les équipes?
Ouais, ce serait de toute beauté, mais c'est impossible. C'est parce qu'un 2-3, la saison finirait jamais, ce serait trop long, puis les risques de blessures seraient énormes pour les joueurs. Là, on le voit comment c'est l'hécatombe en ce moment. Là. Que ce soit Mahomes, Kelsey qui est blessé au dos, Purdy qui se démolit le coude. T'sais, les joueurs à ce stade-ci de la saison là, sont tous sur une jambe où ils ont tous quelque chose à gérer, sont tous en réhabilitation d'un bobo quelconque qui t'amène un 2-3 là-dedans. Je comprends que d'un point de vue amateur, il y a bien des fois qu'on se dit « si ce club-là, il rejouait contre, peut-être que le résultat serait bien différent, mais non, tu peux pas. Là. Je pense que c'est tout simplement impossible. »
Le retour de P.L. Russovski qui nous pose la question. Avec toutes les blessures au QB cette année, croyez-vous que la NFL devrait soit augmenter le roster des joueurs avec un joueur de plus, de faire comme avant, d'obliger les équipes à habiller un troisième carrière pour chaque équipe ou de continuer le statu quo? Il y avait aussi une autre solution qui avait été évoquée. Là, c'était d'ajouter un troisième carrière, mais de pas faire en sorte d'ajouter un nouveau joueur sur le roster. Autrement dit, les équipes pouvaient ajouter un troisième carrière, mais c'est le seul joueur qu'il pouvait ajouter.
Ouais, moi, c'est comme ça que j'irais, honnêtement, là, pour faciliter la tâche des équipes, puis pas les obliger à prendre des décisions trop déchirantes, parce qu'on l'a vu, là, tu sais. Tu vas me dire un troisième corps arrière contre les Eagles, est-ce que ça aurait changé tant que ça? Peut-être pas, là, tu sais. C'est pas lui qui serait allé chercher la victoire, mais au moins, t'as un gars qui est en mesure d'être compétitif, tu sais. Puis tu ramènes pas un corps arrière blessé, ce qui était extrêmement dangereux. Avec du recul, tu regardes ça, là. Purdy a le ligament complètement détruit. Va falloir qu'il subisse une opération, là. On le sait pas encore pour l'instant. Pourrait peut-être même être une opération à la Tommy John.
Mais on parle de 6 mois, là.
Ben,
minimum.
C'est 6 mois dans le meilleur des scénarios.
C'est ça.
Tu sais, ça pourrait être pire encore. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, on a ramené ce gars-là dans le match. C'est incroyable, pareil, là. On a ramené ce gars-là dans le match, donc faut que tu fasses toutes les solutions possibles pour faciliter la vie des équipes pour qu'ils s'habillent un troisième carrière. Là, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus.
Michel Fortin, on va en parler plus longuement la semaine prochaine, mais on va faire un petit début pour le match du Super Bowl. Votre feeling sur l'état de santé de Pat Mahomes ainsi que Jalen Hurts pour l'ultime match?
Ouais, ben, je pense qu'Hurts est en meilleure position. Tu sais, il a mal à l'épaule, là, oui, mais il est extrêmement bien protégé. Ça, c'est la première des choses. Puis, il peut toujours se rabattre sur un jeu au sol qui est très, très, très efficace, là. Donc, je dis pas que ce qu'il vit, c'est rien, mais Mahomes, vraiment, là, il y a une entorse à la cheville sévère. On l'a vu, plus le match avançait dimanche passé, plus ça semblait difficile, la mobilité. Puis, il y a une bonne ligne à l'attaque, mais loin d'être celle des Eagles. Puis, les deux bloqueurs particulièrement là, peuvent être moins fiables, surtout Andrew Wiley du côté droit. Donc ça, c'est plus dangereux là, à mon sens, pour Mahomes. Les deux vont jouer, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Mais c'est lui qui est le plus hypothéqué en ce moment.
Alexis nous pose la question, est-ce que Mahomes, justement, est le QB le plus complet de l'histoire de la NFL? Peut-être un peu tôt, mais on attend avec l'échantillon qu'on a.
Oui, c'est ça, c'est de bonheur, mais tu sais, c'est sûr que ce qu'on voit, il y a tout, là, tu sais. On parle de Mahomes, là, sa capacité d'improviser, sa vision du jeu, les qualités athlétiques, évidemment. T'sais, c'est un gars très intelligent, là, ça. De toute façon, pour runner une attaque d'Andy Reid, faut que tu sois brillant, faut que tu aies un bon QI football. On voit que c'est un bon leader, il est très apprécié de ses coéquipiers. Je pense que ça, faut que tu le comptes dans la qualité d'un carrière aussi. Là. C'est pas vrai qu'ils sont tous appréciés comme ça. Il est précis, il a un bras canon, t'sais, il a tout. Il y a vraiment, en termes de talent, est-ce que c'est le plus complet? Probablement, là. Est-ce que maintenant c'est le meilleur? Il reste que Tom Brady est au sommet du palmarès. Je pense que c'est inévitable. Mais en termes de talent pur, pas le choix de considérer Mahomes. Là, on verra pour la suite de sa carrière, par contre. T'sais, il va falloir qu'il y ait une longévité aussi.
Guillaume nous pose la question, que pensez-vous de l'embauche de Sean Payton avec les Broncos? On en a un petit peu parlé tantôt. Ouais. Broncos Country, let's ride.
Et voilà. Ben c'est ça, on a pas mal fait le tour, mais je te dirais que pour revenir à mon point de départ, ça fait mal au cœur. Tu vois les choix qui partent, puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, c'était clairement le meilleur esprit offensif disponible, ça, il n'y a pas de doute. Puis, il y avait vraiment besoin d'un électrochoc. Donc, je suis pas contre le geste qu'ils ont posé là, pour essayer de relancer Russell Wilson. Et pour la suite des choses, quand Wilson ne sera plus là.
Vous reconnaissez ce thème? C'est le moment de la question Robin, qui chaque semaine nous fait grâce d'une question. Et cette semaine encore, Robin, merci de nous avoir écrit. Que pensez-vous de l'acquisition par les Chargers du coordonnateur offensif des Cowboys? Un bon ou un très bon move pour Herbert? C'est vrai qu'il y a eu des changements chez les Cowboys, un peu surprenant.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu venir, qu'Alan Moore qui s'en va, parce qu'il était courtisé même comme entraîneur-chef ailleurs. Là. Il y avait eu des entrevues dans quelques marchés.
Il fait un latéral là, pour parler en termes de ressources humaines.
Oui, c'est ça. Je pense, semble-t-il que la relation n'était pas au beau fixe avec Mike McCarthy. T'sais, il ne s'entendait peut-être plus tellement à la fin. C'est bon qu'il change d'air, c'est bon pour les Cowboys, c'est bon pour lui, puis c'est encore mieux pour les Chargers, je pense. Tu regardes, il a été embauché là, combien d'heures après sa mise à pied? Ça, c'est bon signe. Habituellement, là, quand ça va aussi vite que ça, c'est qu'il n'y a pas de doute sur tes capacités. Il était attendu. Puis, juste, c'est intéressant parce qu'il est tombé, lui, coordonnateur offensif à Dallas en 2019. Dans ses années avec les Cowboys, l'attaque a fini 6e, 4e et 1e. T'sais, la seule année qui a été hors du top 10, Kellen Moore au niveau de son attaque, c'est il y a 2 ans quand Dak Prescott avait raté un bon bout de l'année. Puis tu regardes encore cette année, ils finissent 4e, puis Prescott a raté quoi, 6 matchs, je pense, ou 4 en tout cas. C'est vraiment là, je pense qu'il a fait ses preuves, il se fait une bonne réputation, puis avec Justin Herbert, j'ai bien hâte de voir quel genre de flamèche ça peut faire.
Le seul malheur, c'est qu'il aura terminé sa carrière à Dallas avec un jeu qui va être rentré dans les annales, un peu absurde, là, de jeu de désespoir, mais qui aura complètement floppé.
Ah oui, ça c'est... Mais écoute, est-ce que c'est le jeu? Est-ce
non,
que c'est
évidemment.
L'exécution? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est... On le saura pas.
Puis on s'entend que les chances de réussite étaient minces, puis il y avait tout.
Ouais. C'est plate. Mike McCarthy, après sa conférence d'après-saison, il a dit « Je rentrerai pas dans les détails de ce jeu-là. » Il a pas voulu là, s'aventurer puis fournir des explications, à part de dire « Ça a pas marché comme ça devait. » Ouais, on s'en doute. Là. Ouais. On saura pas vraiment qui était le responsable de ce grand fiasco.
Merci pour vos questions. Merci, chers auditeurs. Vous savez que chaque semaine, on veut répondre à vos questions. Vous êtes très nombreux à participer. C'est facile de nous rejoindre. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi écrire sur notre groupe Facebook nos meilleurs conseils de fantasy football. Et vous pouvez nous écrire par courriel à l'adresse suivante.
La zone payante à commercial québecormedia.com.
Merci, Steph. Merci à vous. Après la pause, là... D'abord, vous savez que y a plusieurs équipes qui ne sont pas au Super Bowl et qui auront des devoirs cette année. Vous êtes sans doute partisan d'une des équipes qui n'est pas au Super Bowl. Mais on va en parler après la pause. On va passer les 32 équipes et on va leur donner un devoir pour la saison morte. Bougez pas.